Ce que j'ai entendu aujourd'hui, de la Finlande à New York et toutes vos c'est la tentation des bonnes pratiques. C'est la tentation de savoir comment faire un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, avec toutes ces paroles, vous avez eu des réponses à votre question. La question, c'était citoyenneté ou communauté. New York vous a répondu. Voilà, pour faire citoyenneté, il faut d'abord faire communauté. Voilà, on a une bonne réponse. Essayez de le faire en France, ça sera peut-être un peu plus dur. Mais enfin, ils ont donné la réponse. Et puis, on a aussi, ça j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de services multiples et divers qui sont au-delà de « Je vous prête un livre », qui ont traversé votre journée un peu partout et avec toujours une grande satisfaction, quelques interrogations, mais enfin, une grande satisfaction d'avoir trouvé ou de trouver ici ou là, de façon adaptée, des services pour les publics, puisque vous restez souvent sur ce terme de public. Voilà. En tout cas... Bon, vous ne manquez pas de solutions. Alors moi, je ne vais pas rester sur le terrain des bonnes ou des mauvaises solutions, je vais rester sur le terrain de l'interrogation. Vous me pardonnerez de finir en posant de nouvelles questions pour aller plus loin, pour aller ailleurs, en tout cas. Je ne sais pas si ce sera plus loin. Et ce que je retiens dans cette interrogation, c'est que vous êtes des professionnels formidables. On m'a dit que je n'avais pas été très gentil ce matin, alors je me récupère, hein, c'est un peu démago. Vous êtes des professionnels formidables. Et vous êtes des professionnels formidables dans votre rapport, dans la fonction que vous remplissez vis-à-vis des usagers. Et je crois que vous voulez pas vraiment sortir. Mais moi, mon interrogation, c'est que chez moi, j'ai entendu autre chose. Je suis désolé, je suis pas professionnel des bibliothèques, donc je peux me permettre de le dire. Moi, j'ai pas entendu des professionnels formidables. J'ai entendu des personnes formidables. Et j'ai entendu des personnes formidables qui ont un statut, qui doivent répondre aux injonctions de leur tutelle, etc. Mais j'ai entendu des personnes qui ne cherchaient pas simplement à rendre service fonctionnellement aux usagers, qui tentaient, qui essayaient. Quelquefois, c'est loin de tout ce qu'ils voudraient faire. C'est contraint par rapport à la règle, qui essayaient de faire en sorte qu'ils aient en face des personnes. J'ai entendu ça. Vous le revendiquez pas? Vous avez du mal. Tout à l'heure, Julie a dit objet culturel, alors que on venait juste de décrire une relation culturelle de personne à personne. Quelle idée d'utiliser le terme objet alors que ce qu'on décrit, c'est une relation de personne à personne. Voilà. Donc moi, j'ai entendu ça. Voilà. Je veux conclure là-dessus. C'est au fond que on dit des bonnes personnes. Bonnes personnes, ça veut dire effectivement une volonté dans votre responsabilité d'être en relation avec des personnes. Le problème, c'est que, effectivement, parmi tous les problèmes, mais cette idée-là de la responsabilité publique, elle n'est pas bien assise. La vraie responsabilité qu'on vous donne dans tous les échelons de la hiérarchie, c'est bien celle fonctionnelle de répondre à des usagers. Et ça, c'est assez facile. Au fond, vous le savez, tout le monde, on sait faire ça en France et ailleurs. La responsabilité fonctionnelle de répondre à des usagers, on sait faire. On sait classer les bouquins, on sait savoir à quelle heure on ouvre, on sait s'il faut une carte, etc. Là où c'est complexe et là où la responsabilité publique d'intérêt général ne s'est pas encore positionnée, malheureusement, je le dis, c'est que c'est quand on a affaire, non pas à des professionnels qui rendent des services aux usagers, mais lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont en relation avec des personnes. Et la relation avec des personnes, c'est une relation très complexe. Je ne sais pas si Kent est là, mais les photos qu'il nous a montrées sont d'une sensibilité telle qu'on se dit, des photos de personnes qui vivent dans la rue, on se dit on a bien affaire à des êtres humains et y a une telle émotion qui se dégage de là qu'on ne sait plus quoi faire. Vivre dans la rue, on ne sait plus quoi faire. Et donc cette idée de la personne, cette idée de la personne complexe, alors que l'usager, finalement, c'est compliqué, mais ce n'est pas complexe. La relation avec la personne, elle est complexe. Et vous, dans votre activité, non pas de professionnel, mais de personne, ben là, vous avez du mal. Vous avez du mal parce que rien n'est vraiment fait pour que vous puissiez prendre le temps de quoi ? Peut-être même de rien dire. Peut-être le temps de rien dire, le temps de ne rien faire, le temps de ne pas être obsédé par les actions. Quand est-ce que vous ferez une révolte toute massive en disant « on fait la grève de la faim, on ne veut plus agir, on ne veut plus être obsédé par « il faut faire ceci, il faut faire cela ». J'ai encore entendu des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Arrêtez un peu, vous êtes des personnes, vous voulez avoir le temps de la relation avec des personnes et quelquefois, ça ne marche pas. Je déteste qu'on dise ça marche ou ça n'a pas marché. Il n'y a que ma machine à laver qui marche. J'appuie dessus, toi qui marche. Voilà, tranquille. Elle n'est pas libre, ma machine à laver, puisqu'elle est là pour ça. Elle est là pour remplir sa fonction. J'appuie sur le bouton et si elle ne marche pas, je dis, elle ne marche pas. Donc, arrêtez avec le terme marché. Arrêtons de dire que ça marche. Disons au contraire qu'on a fait relation. C'était de toute façon pas tout à fait terrible. Quelqu'un a bien dit ça. On s'est concilié malgré tout. On a réussi à trouver quelque chose d'imparfait. La 27e région nous l'a redit. C'est parfait, parce qu'entre deux personnes, même amoureux, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est jamais un commun parfait, c'est jamais une vie idéale qui réussit. Il ne faut pas baguer quand même. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc l'enjeu de cette mission d'intérêt public, de mission d'intérêt général, d'être une personne en rentrant en relation avec les personnes, elle suppose une négociation qui se fera peut-être plus tard sur qu'est-ce qui est important, à quoi il est important de consacrer son temps. Bon, je ne vais pas parler de Bordeaux, on en parlera une autre fois quand on aura bien avancé dans nos affaires, mais c'est dans le laboratoire des droits culturels, dans cette politique de transition vers les droits culturels, avec les professionnels des musées, de la bibliothèque, des musées et des autres, on va essayer de voir comment ce temps où il ne se passe rien, pour l'instant il ne se passe rien puisqu'on ne sait même pas à qui on a affaire, comment ce temps devient un temps de responsabilité publique. Pour l'instant, dans la loi, ce temps n'est pas un temps de responsabilité publique, parce qu'on vous dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut passer les bouquins, il faut faire une action culturelle, etc. Action culturelle. Est-ce qu'il y a un terme plus idiot que ça ? C'est pas possible. Action culturelle. Une relation, oui, entre des personnes. Mais la relation, vous ne la managez pas comme une action culturelle. Elle reste incertaine, opaque, dit Édouard Glissant, pour ceux qui ont été jusqu'à lire les œuvres magiques d'Édouard Glissant. Ça, c'est vexant, hein. Il ne faut pas répéter. J'en suis là dans mon affaire. Où est la possibilité collective, non pas de négocier avec votre élu, avec votre maire, votre département, mais la responsabilité collective au niveau d'un État comme la France, pour qu'il y ait un peu plus de place pour les personnes que vous êtes, derrière la dimension professionnelle, pour des relations avec des usagers qui feraient mieux d'être des personnes. Ça, c'est une question. Le cadre, j'ai essayé de vous le donner. Le cadre existe. Je ne l'ai pas inventé. C'est pas une affaire de sociologue, de philosophe, de théorie, etc. Ce cadre est donné. Il est donné par la loi qui dit, nous sommes un État qui avons signé les droits humains fondamentaux. Nous posons comme cadre, non pas simplement faire ensemble ou vivre ensemble, mais la nécessité de regarder l'autre comme une personne qui a les mêmes droits que moi. C'est un peu autre chose. Avec l'idée de conflit aussi qui est derrière. Ce cadre existe. C'est tout. Je n'ai pas dit autre chose ce matin. J'ai pas dit changer de lunettes, vous verrez mieux. J'ai dit, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous pensez que vous êtes une personne plus qu'un professionnel et que les usagers sont plus que des usagers, c'est aussi des personnes, vous avez la possibilité de dire, nous voulons négocier sur la base de l'article 103 de la loi NOTRe, le respect des droits culturels des personnes. Là, ça s'ouvre. Voilà. Mais ça, c'est votre choix. Vous pouvez très bien ne pas le faire. Mais vous pouvez aussi le faire. C'est tout à fait possible, même si ça échoue. En tout cas, sur Bordeaux, on va essayer de montrer que cette entrée par la personne existe. Et d'abord, il faut que je l'écoute, évidemment. Avant même de l'écouter, il faut que je me positionne pour qu'elle considère que je suis en proximité avec elle. Sinon, si je l'écoute du haut de ma chaise et que je lui demande de venir me parler, c'est même pas la peine. Donc voilà, ça c'est une réflexion que je veux faire. Il y a un combat qui vous revient collectivement. C'est pas celui d'agir, vous le faites très bien, vous faites tellement de trucs, c'est formidable. C'est pas de faire un truc de plus à Annemasse ou à Bordeaux, etc. Le combat, à mon avis, du siècle, c'est cette idée que la culture dans les objets, ça vous enferme dans une idée de professionnel et d'usager, alors que la plupart d'entre vous, vous êtes dans des logiques de relation de personne à personne, et là vous avez un cadre que vous devriez négocier aussi dans les 5, 6, 7, 8 ans. Essayons de voir ça comme ça. Ça, c'est une première conclusion. Il y en a une deuxième. Non, peut-être pas. Enfin, je sais pas. J'ai encore le temps. Ah si, peut-être. Si. J'ai une deuxième. Rappelez-vous l'exemple de la Finlande. J'espère qu'elle n'est pas là, la dame. Donc j'espère que... c'est dommage parce qu'elle... Enfin, la Finlande, on a entendu pour la Finlande qu'il y avait une forte mobilisation des personnes, des habitants, on le dit souvent, pour construire la bibliothèque. Et donc on voit très très bien, et elle a parfaitement raison, que l'écoute des personnes, l'attention aux personnes, tous les dispositifs pour qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, quels besoins, etc., c'est fait. On peut, je sais pas, ça doit être bien fait, quoi, on va dire, pour être gentil. Ça doit sûrement être bien fait. On peut le reproduire, on peut s'intéresser à ça. Par contre, je n'ai pas entendu, peut-être qu'on lui a pas demandé, mais en tout cas, on pourrait lui demander, mais l'inverse. On a vu ce que les habitants apportaient à la conception de la bibliothèque. Mais maintenant, parlons droit culturel, parlons droit humain fondamentaux. Qu'est-ce que la bibliothèque, avec toute son équipe, ses ressources? En quoi c'est une ressource du trajet de la personne, de l'émancipation de la personne? À ça, on n'a rien. Et j'ai remarqué que dans d'autres exemples, on n'avait rien non plus. C'est-à-dire que on est centré sur la bibliothèque, qui attire un certain nombre d'usagers devenus des personnes, des habitants, etc. Mais si on pose la question, si on s'interroge en disant quel est le destin de ces personnes-là, quel est le destin, quand est-ce qu'on les voit et qu'est-ce qui s'est passé pour elles, c'est le cas par exemple pour les photos de Kent, qu'est-ce qui se passe après, est-ce que la personne dans son trajet est passée à une situation les plus libre effectivement? Plus libre, par exemple, de quitter le domaine de la rue, de quitter la forêt, comme on a vu des photos tout à l'heure, la jeune femme qui habite en forêt. Est-ce qu'elle a la liberté effective de choisir ou pas? Parce que si c'est la good life, vous appelez le good life, si c'est la good life, ça va bien, chacun dans son coin, moi j'aime ceci. Où est la société juste, si simplement on reste dans la notion de besoin ou la notion de good life? Est-ce qu'on a permis aux personnes d'élargir leur liberté effective, de faire un choix, le choix de ne pas faire, par exemple? La liberté de faire ou de ne pas faire, c'est l'enjeu numéro un. Une personne qui lit pas, est-ce que c'est grave? Ah oui, c'est grave, il faut aller faire de l'action culturelle, etc. Mais si c'est un agrégé qui en a marre d'avoir lu toute l'année des bouquins pour essayer de passer son concours et qui lit pas, vous avez l'air ridicule, parce qu'il a les capacités, il a les capacités de lire. Il lit pas en ce moment, mais il pourra le faire. Il a la liberté de relire, ce qui n'est pas pareil pour une personne qui est dyslexique, qui n'arrive pas, etc. Donc à chaque fois, il faut regarder la personne, il faut rentrer en relation avec la personne, c'est pas facile, et essayer d'apprécier avec elle quelle est sa liberté effective, quel chemin peut emprunter grâce à une relation avec des personnes comme vous, avec toutes les richesses que vous avez, toutes les ressources que vous avez dans la bibliothèque, pour accéder à plus de liberté. Liberté effective. Ça, c'est les droits humains fondamentaux, c'est ce qui est dans les exemples, mais c'est noté comme des exemples et non comme des valeurs d'intérêt général. Et c'est ça, en fait, mon combat. C'est pas que vous changiez votre regard sur ce que vous faites, c'est que, quelque part, collectivement, vous disiez, ça, c'est d'intérêt général parce que, effectivement, il y a un cadre qui est possible, c'est celui des droits humains fondamentaux. Voilà. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et de ce point de vue, je vais arrêter, et de ce point de vue, il y a un terme qui me gêne beaucoup. Mais plus que celui-là, je peux me permettre de le dire, c'est le terme de citoyen. Citoyenneté. On l'a vu un peu pour les New-Yorkais. Quand ils disent citoyen, c'est l'immigré qui finit par être un bon citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité totalement d'être intégré. Il n'a pas intérêt à ne pas être intégré. En France, citoyen, ça va plus loin que ça. On ne peut pas jouer avec ce terme-là. Vous avez en particulier un décret du 31 janvier de cette année qui vous précise que dans les affaires locales, les affaires des collectivités locales, eh bien, toutes les personnes, c'est le mot, toutes les personnes peuvent participer, être conviées, être associées, etc. Voilà, c'est une phrase assez générale. Et l'article 2 dit, ah oui, d'accord, ben, enfin, on a dit les personnes, mais en fait, c'est les citoyens qui ont le droit de vote, qui peuvent ceci, qui peuvent cela. Et donc on s'aperçoit que le terme citoyen, il est lourd à porter parce que ce serait malhonnête de dire à quelqu'un « Ah, vous avez, à travers notre action, vous avez une position de citoyenneté. Regardez, il a lu, il a suivi le service, il a travaillé avec nous, il devient plus citoyen dans la cité, il a un comportement de citoyen. » Ça serait malhonnête de l'appeler citoyen puisque si c'est comme mon copain qui est en France depuis 25 ans, qui vient du Ghana, il n'a toujours pas le droit de vote. Alors réservons à ces personnes qui sont avec d'autres en relation et qui construisent avec d'autres des schémas, des vies communes, réservons-le leur terme de personne. Personne, c'est bien. Oui, c'est une personne, une vraie personne, comme on dit. Mais pas citoyen, parce que vous n'êtes pas garanti que le droit de vote leur sera accordé, qu'ils seront pleinement citoyens. C'est même probablement relativement limité pour pas mal des personnes dont on parle. Alors j'ai enlevé citoyen de mon langage et j'espérais vous convaincre de ça. Et puis la dernière conclusion, pour ne pas retarder trop, j'ai encore deux points. La première, c'est Qu'est-ce serait la vraie responsabilité d'une bibliothèque qui ne voudrait pas être simplement un lieu où on prête des bouquins, puis à côté une multitude de services, comme il y a le service du garagiste, le service de la poste, le service de l'emploi. Enfin, arrêtez, quoi, vous n'allez pas continuer à être dans cette logique de consommateur plus ou moins friqué. Vous avez la possibilité de dire, avec la définition de la culture comme relation d'humanité, vous avez la possibilité de dire, nous battons pour une conception de la culture où nous serons des personnages qui permettront des relations d'humanité. Mais on ne sait pas tout faire. Et vous avez un très bon exemple, les New Yorkais en l'occurrence, et puis d'autres aussi que j'ai oubliés, ils me pardonneront. Du coup, la bibliothèque, c'est pas l'endroit où on traite toutes les relations dans la personne. Toutes les relations dont la personne, toutes les relations qui permettraient à la personne d'être plus libre, plus digne, plus reconnue, plus autonome, c'est en fait le lieu de la relation des relations. Et si on partait sur l'idée que la culture, c'est en fait comme définition des relations d'humanité, la bibliothèque, avec ses livres, mais aussi avec ses personnels devenus des personnes ouvertes aux relations, ce serait le lieu dans la cité qui permettrait de dire, par rapport à la trajectoire de telle personne, nous on a fait notre bout de chemin, c'est pas en installant un service de plus dans la bibliothèque, c'est en ayant des relations avec la CAF, avec le rectorat, avec etc. Vous rappelez les New Yorkais, tout le partenariat. Et être une bibliothèque de relations, ça vous remet en selle sur l'enjeu public, mais pas simplement sur on va rendre service à des usagers pour essayer de se couvrir en disant ça serait bien qu'il y ait lieu avec des livres dans la cité. Moi, je préfère ça. Je préférais qu'on dise oui, on a choisi une définition de la culture, celle de l'ONU, c'est bien les relations d'humanité et notre façon de nous organiser. Nous, notre ressource principale, c'est le livre. Pour le reste, c'est des relations de partenariat et on est ouvert aux relations de partenariat pour faire humanité ensemble. Ce serait pas mal. Enfin, moi, j'aimerais bien. Et puis, le dernier mot, c'est que ces histoires de droits humains, on m'a encore dit ça dans les couloirs, c'est du droit, on n'aime pas, c'est de la culture, etc., on ne comprend pas. En fait, c'est rien. C'est rien du tout. C'est simplement enlever droit, enlever culturel. C'est simplement des balises communes que nous avons dans la famille humaine, depuis 1948, ce sont des balises. Alors on fait ce qu'on veut, on fait comme on peut, là où on est, en campagne, en rural, ici, ailleurs. Simplement, ces balises nous sont communes. Et ces balises communes, on ne peut pas jouer avec. Et bien, ces balises communes nous disent, nous sommes dans une famille humaine, et il faut qu'on fasse tous les efforts possibles pour considérer que l'autre, et moi-même et l'autre, sont des personnes libres. Pas évident. Dignes, c'est pas évident. Autonomes, c'est pas évident. Et ça, c'est des balises. Après, chacun bricole dans son coin ce qu'il peut faire, mais à chaque fois, il doit pouvoir s'interroger. À chaque seconde, on doit s'interroger. Est-ce que vraiment la personne-là, elle était libre? Est-ce qu'elle était vraiment reconnue dans sa dignité? Est-ce qu'elle est vraiment autonome? Par exemple, moi, je vous parle, est-ce que vous êtes libre? Pas du tout, c'est moi qui cause. Donc, on a fini. Donc, je m'arrête, parce que là, je loupe l'opération qui consiste à dire, si on veut faire humanité ensemble, eh bien, il faut que les personnes aient une place et que leur place soit reconnue en tant que droit humain fondamental, comme une balise de liberté et de dignité. Donc quand vous faites quelque chose, au lieu de nous dire ça marche, dites, comme certains l'ont fait, on croyait que ça avait vraiment marché pour les usagers. Mais si on prend le critère de la dignité, de la liberté, de l'autonomie et de l'émancipation, on a encore un bout de chemin à faire. En tout cas, j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Merci de m'avoir invité. Et j'ai respecté les délais. Hein.
Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette conclusion revigorante et déstabilisante. Nous saurons essayer d'en faire notre miel. Je vous remercie à tous. Dès que possible, les supports des différents intervenants, les enregistrements audio de la journée seront en ligne sur le site. Et puis, merci à l'ABF pour ce compagnonnage. Merci à la régie et le service informatique sans lesquels rien n'aurait fonctionné. Et
il y aura aussi une petite vidéo d'une collègue d'Oslo.
Oui, nous attendons et nous allons mettre en ligne, Annie vous l'a annoncé ce matin, une collègue d'Oslo qui a remué ciel et terre pour essayer d'offrir un service aux personnes afghanes, et que vous retrouverez aussi en ligne, mais vous êtes tous abonnés à BPI Pro, évidemment, et vous suivez nos actualités. Qui n'ai-je pas remercié? J'en étais la régie, l'équipe de la délégation à la coopération, qui n'a pas chômé pour l'organisation de cette journée. À très bientôt à tous, merci.